Alors, on passe au point 7.3, nouvelle infrastructure aquatique. Daniel Barrette, est-ce qu'il y a du nouveau de ce côté-là?
Le comité de gestion s'est réuni à la fin du mois d'avril, début du mois de mai, où c'est que Lynn et moi nous avons présenté un peu qu'est-ce qui se passe dans le Pontiac. En fait, le Pontiac veut aussi avoir une piscine et eux, c'est un organisme sans but lucratif qui gère cette chose-là. Et les municipalités ne sont aucunement dans le dossier. Ça fait qu'on nous a présenté le dossier. En fait, on nous a présenté un peu qu'est-ce qui se passe dans cette région-là. Et à partir de là, le comité de gestion avait des devoirs à faire avec le comité des utilisateurs, à voir si ce n'était pas une chose qui était faisable ici au Témiscamingue. On devrait se rencontrer la semaine prochaine pour avoir un petit peu plus, voir ce qui en sont rendus là-dedans. Mais c'est certain que ce qui est envisagé beaucoup, c'est possiblement la même formule que le Pontiac ont fait. Fait qu'aussitôt qu'on aura d'autres renseignements, on vous le communiquera. J'ai des questions.
Est-ce que vous avez des questions pour Daniel?
Avez-vous des rencontres avec le Pontiac?
On est, c'est sûr qu'avec l'histoire de la COVID, là, c'est pas facile là, pour l'instant. Là. C'est ce qu'on avait regardé. Si ça n'avait pas commencé, cette histoire de COVID-là, c'est qu'on était en train d'organiser un auto pour qu'on puisse monter là et aller les rencontrer. Là, c'est qu'on essaie d'avoir des rencontres virtuelles et c'est assez difficile là, pour l'instant. C'est un peu ce que le comité des utilisateurs tentait de faire dans les deux dernières semaines. Fait que c'est pour ça que la semaine prochaine, on va avoir la prochaine rencontre. On va savoir ce qu'ils sont rendus dans tout ça. Mais c'est pas toujours évident. Là. C'est comme je vous dis, tenir des rencontres par Zoom ou bien par... c'est pas tout le temps facile. Ça avance tranquillement. C'est pas mort, ça avance tranquillement. On devrait arriver à quelque chose d'ici quelques temps.
Alors, est-ce que vous avez d'autres questions pour Daniel? Merci beaucoup, Daniel, pour la mise au point. Enjeu ponctuel 7.4. Comité santé citoyen du Témiscamingue, simplement pour vous rappeler qu'on a fait que le comité santé, on vous a partagé l'intervention que le comité santé, les questions qu'il avait adressées au CISAT. Et suite à ces questions-là, le CISAT a répondu. Évidemment, la réponse n'est pas à la hauteur des attentes que nous avions, ni que le comité santé avait, mais on va relancer les questions avec des demandes de précision et on va maintenir la pression pour obtenir les réponses qu'on souhaite avoir telles qu'elles ont été soumises. On rappelle que nous, on doit toujours avoir une rencontre avec le CISAT. En fait, l'état d'urgence sanitaire a été déclaré le 13 mars et le 12 mars, on devait avoir une rencontre avec les dirigeants du CISAT. Cette rencontre-là est toujours, d'actualité. On doit toujours la tenir. Après l'autre côté de la COVID, on planifiera cette rencontre-là. Et je vous rappelle que nos préoccupations au niveau du conseil, c'était vraiment la gouvernance locale des soins de santé pour les citoyens. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires sur le point? Parfait. Sinon, on va passer au Fonds de développement des territoires. Et ça va me faire plaisir de passer la parole à Véronique. Véronique?
Bonsoir tout le monde.
Merci. Alors, je m'absente deux secondes, c'est pas par manque d'intérêt.
Donc, je vous présente ce soir le résultat du deuxième dépôt de projet qui s'est fait le 27 avril dernier. Juste vous mentionner que, étant donné le contexte, on avait pris la peine de sonder les municipalités et les organismes à savoir si il y en avait qui avaient des projets en branle ou qui étaient intéressés à déposer. La réponse a été oui, donc on a maintenu cet appel de projet-là. Je vais débuter avec le volet 1. Dans le fond, il y a trois projets qui ont été déposés pour un montant total demandé de 80 000 pour un coût total de projet de 745 101. Et je débute avec le premier qui a été déposé par la Ville de Témiscamingue. C'est une piste multifonctionnelle et ça se trouve à être la phase 4 de cette piste-là. C'est de transformer une piste actuelle de 1,8 km en un sentier asphalté multifonctionnel, donc piétons cyclables et raquettes ski de fond l'hiver. C'est une ancienne piste de motoneige qui sera utilisée pour faire ce sentier-là, qui est située sur le côté nord du lac Aubrochet. Et ça permet de compléter une boucle de 7,2 km au cœur du périmètre urbain de la ville. Dans le fond, ça permet de connecter le secteur de la rue Lafort au centre-ville. Et ce sera aménagé selon les normes de Vélo-Québec. Donc, un montant demandé de 30 000, un coût total de projet de 306 000 $. La ville y investit 123 000 et le MTQ 153 000 $. Au niveau des faits saillants, ce que le comité du GAM a ressorti, c'est un projet qui est structuré et présenté de façon détaillée avec photos, cartes, plans d'aménagement des chantiers. C'est un projet qui est axé sur la qualité de vie et la vitalisation du milieu et il vise principalement le transport actif des citoyens. Comme vous avez vu tantôt, il est soutenu financièrement à 50 % par la ville, 40 % par le MTQ. Donc, le financement du FDT est vraiment complémentaire avec un 10 %. C'est un projet qui est axé sur le développement du tourisme et de la démographie. Ça augmente l'offre de services de la localité du secteur. C'est un projet qui était bien appuyé avec 5 lettres d'appui au dossier. On parle de Kipawa, la Maison des jeunes, Wolf Lake, Pour tous les bouts de chou et l'école GT Berge. Et c'est un projet qui vise à faire un leg dans le cadre du 100e anniversaire de la ville qui aura lieu en 2021. Donc, ce qui est recommandé, c'est le soutien financier tel que demandé à 30 000 $. Est-ce qu'il y a des questions sur le projet? Donc, s'il n'y en a pas, je poursuis avec le deuxième, présenté par le comité de l'Est témiscamien. C'est la réinstallation d'un local pour la Maison des jeunes, mais qui inclut un centre d'entraînement pour tous. Ce sera aménagé au, une partie du sous-sol du centre communautaire de la Tulipe. Donc, ça va, le même local va accueillir les deux fonctions. Il faut savoir que la Tulipe fait un prêt gratuit du local et c'est un endroit qui est entièrement rénové. Le local est aménagé selon les plans d'une designer pour maximiser l'utilisation de l'espace et adapter le tout aux besoins des jeunes. Et c'est un système d'accès par carte au local, donc une carte à puce. Le montant demandé, c'est 20 000 $. Le coût total du projet, 42 283 $. On a noté que c'est un projet concerté déposé par tout un secteur, donc les retombées qui s'effectuent sur 5 municipalités. Le financement qui est diversifié, loisirs et sports Abitibi-Témiscamingue qui est là pour 12 300 $, Desjardins pour 7 700, la Maison des jeunes pour 1 000 et la balance par le comité. C'est un projet qui est axé sur la qualité de vie, donc des citoyens en entier, étant donné activités physiques, saines habitudes de vie pour le centre d'entraînement, et aussi pour la vitalisation du milieu et pour principalement aussi briser l'isolement des jeunes du secteur. C'est un projet qui touche aux services de proximité, démographie et qui favorise l'attraction des populations. C'est un projet qui est appuyé de 3 lettres d'appui au dossier, donc la Maison des jeunes, la municipalité de Moffett, la municipalité de la Tulipe, et dans la lettre de la Tulipe, c'est précisé qu'il y a un montant de 5 000 $ qui est budgété par la municipalité pour l'entretien des lieux et de l'équipement. C'est un dossier qui comprend des plans détaillés. Ça nous permettait de bien visualiser l'espace, de bien comprendre. Échéancier, soumission, mais on a noté que le descriptif était peu détaillé. Donc, ce qui est recommandé, c'est le soutien tel que demandé à 20 000 $.
Questions, commentaires? Alors, on continue, Véronique.
Troisième projet présenté par Long Point First Nation. C'est une tour de communication cellulaire et Internet. Donc, c'est la construction de cette tour-là de communication de 300 pieds qui couvre un rayon de plus de 20 km. Ça se passe en collaboration avec Bell et avec le GIRAT, donc le projet mobile AT. Parallèle avec le projet mobile AT, ce qui était censé, voulu être installé, c'est une tour de 60 pieds avec un rayon de 2,5 km. Donc, on voit la différence entre les deux projets. Ça intègre la radio communautaire de CFWR, j'ai mis un O de trop dans votre document, désolé. Et ça l'offrira la place pour d'autres distributeurs de services de téléphonie ou autres. Donc, ce qui est demandé, c'est 30 000 $, un coût de projet de 396 818 $. Il faut savoir que La communauté y met 75 000 $, c'est soit la différence qui est entre les deux tours. Je vous ai précisé tantôt le mobile AT. Donc, la différence de coût de projet de 75 000, ce serait mis par la communauté. Un 12 000 $ par Bell, qui aussi s'occupera de l'entretien des équipements. 125 000 $ mis par le GIRA, soit la somme qui était prévue au projet plus de moins grande envergure. Et un fonds qui s'appelle FIA, Infrastructure communautaire, pour 154 819 $. Donc, on a noté que c'est un projet qui rencontrait la priorité numéro un de la MRC, qui est la connectivité. C'est un projet d'infrastructure de longue durée qui favorise la desserte cellulaire et Internet de tout un secteur où présentement c'est déficient. Donc, le projet précisait que ça vient assurer la sécurité sur la route, la Force Wenoway, Rapid7 au niveau du lac Simard et aussi du site ancestral Long Lake. Donc, partenariat avec le GIRA, j'ai nommé, ça permet d'outiller d'autres secteurs quant à l'investissement qui est à considérer pour la connectivité. C'est un projet qui permet de déployer la radio communautaire de la communauté et d'élargir sa couverture. Et la construction est prévue cet été. Il faut savoir que c'est déjà accepté par NAV Canada au niveau là, de la hauteur de la tour et de tout ça. Donc, on recommande le soutien financier à 30 000, tel que demandé, c'est 7,5 % du financement. Et on souligne qu'il serait intéressant que des discussions soient entamées entre La Force et Longue Pointe au sujet de la connectivité. Ça fait le tour pour le volet 1.
Est-ce qu'il y a des questions? On peut revenir sur les autres projets aussi. Est-ce que vous avez des questions pour Véronique sur les projets soumis? Alors, est-ce que vous êtes prêt à prendre une décision?
Oui.
Merci, Luc. La résolution qui est soumise, c'est d'accepter les projets tels que proposés. 30 000, 20 000, 30 000. Est-ce que j'ai un proposeur?
Propose, Daniel.
Bruno? Et qui a proposé?
Daniel.
Daniel Barrette, appui de Bruno Boyer. Est-ce que quelqu'un est contre? Dites-le de vive voix parce que là, je ne vois pas toutes les mains qui lèvent. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Et on passe au volet 2.
Oui, donc le volet 2 qui est un volet de dépôt en continu, mais on a reçu une demande le 14 avril et comme le deuxième appel se terminait le 27 avril, on a traité cette demande-là au même moment. Donc, c'est une demande qui provient de la municipalité de Béarn. Le nom du projet, c'est le maintien, le développement et la pérennité d'entente intermunicipale. Spécifiquement, c'est l'embauche d'un soutien technique et administratif pour supporter l'équipe d'opérateurs et de techniciens en gestion de l'eau, afin d'assurer le développement et la pérennité des ententes intermunicipales dont Béarn est gestionnaire. On parle ici de l'entente pour la couverture des services en eau potable et eau usée, donc pour cette municipalité qui en font partie, et aussi l'entente relative à la fourniture d'équipements pour les services d'aqueduc et eau usée. Donc ça, c'est une entente où il y a 11 municipalités qui sont signataires. Le projet comporte aussi de l'achat d'équipements pour répondre aux besoins des municipalités qui font partie des ententes. Le montant demandé est 32 003 $. On se rappelle qu'au volet 2, il n'y a pas de maximum de demande, de montant maximal. Et c'est un coût de projet de 64 006 $. La balance de 31 291 provient des municipalités signataires à l'entente et un petit montant de 700 $ qui provient de Béarn. Au niveau des faits saillants du projet, je vous rappelle qu'au niveau du volet 2, on a des critères qui sont bien précis, qui, entre autres, visent l'envergure, les retombées sur l'ensemble du territoire, la pérennité et tout. Donc, dans ce projet-là, on a noté que c'est un projet d'envergure, mais aussi un projet collectif, parce que d'une part, il touche 7 municipalités et 11 pour l'autre entente, et ça fait aussi l'embauche de 3 ressources humaines. C'est un projet qui a un impact sur 50 % des municipalités qui pourraient adhérer aux ententes. Donc, on parle de 7 municipalités sur 14.
Véronique, est-ce que tu peux nous bloquer ton affaire? Ça a gelé.
Tu es connectée avec Comtem.
Véronique, t'es gelée. As-tu un cellulaire?
Moi, je voulais juste un...
Alors,
je pense que c'est les oiseaux qu'on entend. Il y a des oiseaux sur la ligne qui ont pris sa place. Depuis tantôt, j'entends des oiseaux.
Si, les oiseaux, c'est ici.
Ah non, c'est... Est-ce que je suis de retour?
Oui. On t'entend la voix. Ton image ne bouge toujours pas, mais on entend ta voix.
Ben regardez, je vais désactiver ma caméra. Je ne sais pas si ça va aider. Donc, est-ce que je reprends l'ensemble des faits saillants ou je continue où j'étais?
Ça a bloqué aux faits saillants 7 des 14. Ça pouvait aller vers d'autres municipalités, là. 7 des 14 municipalités.
D'accord. Donc, dans le fond, ce que je précisais, c'est qu'il y a 14 municipalités qui pourraient se prévaloir de ces ententes-là. Et il y a 7, il y en a 14, donc il y en a 7 sur 14, 50 % des municipalités qui sont signataires à ces ententes. Retombées certaines à plusieurs niveaux. On parle de l'efficacité du professionnalisme, la création d'emplois au niveau de la démographie, parce que c'est des gens de l'extérieur qui sont venus occuper les emplois pour voir, et des économies d'échelle étant donné le regroupement permis. Une main-d'œuvre spécialisée qui permet un soutien aux autres municipalités en cas de besoin. Et on a noté que le FDT représente un levier supplémentaire pour la poursuite de cette entente qui prend de l'expansion et qui répond à des besoins essentiels pour les municipalités, donc eau potable, eau usée. Alors, on recommande le soutien financier à 32 003, soit 50 % du coût de projet.
Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires pour Véronique? Elle est toujours là.
Est revenue.
Oui, elle est là. Alors, tu as des questions, Luc?
Non, rien pour voir si elle était revenue. Là.
OK. S'il n'y a pas de questions, est-ce que vous êtes prêts à adopter la résolution? C'est le dossier dans le volet 2.
Oui, je vous propose. Alors,
c'est proposé. C'est Alexandre, merci.
Je seconde, Vincent.
Merci, Vincent. Alors, est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté. Volet 3, Véronique, toujours.
Oui, donc je vous fais une petite mise en situation. C'est que la rencontre du comité GAM a eu lieu le 1er mai dernier, où on a pris connaissance des projets, mais en même temps, on s'est penché sur les volets 4, 2019, et volet 3, 2020, étant donné le contexte de la pandémie. Et puisque ces volets-là sont dans une politique, les changements, si on souhaite y en apporter, ils doivent être adoptés en résolution. Donc, ce soir, on vous fait part un peu du fruit de nos observations, parce que au moment où on s'est rencontrés, on prenait connaissance de l'annulation des événements et festivals jusqu'au 31 août 2020, dû à la pandémie. Faut rappeler que les volets 4 et 3 du FDT visaient la promotion des activités du milieu par un soutien financier municipal aux organismes et événements culturels et touristiques. Et comme la majorité des activités ciblées ne pourront pas avoir lieu telles que prévues, vu le contexte, et que les municipalités vont avoir des coûts supplémentaires cette année reliés justement à la mise en place d'actions municipales en lien avec la pandémie. On vous propose de revoir un peu l'utilisation de ces deux volets-là. Donc, ça implique de modifier la politique 2019 et 2020 de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. Dans le fond, c'est la politique dans laquelle on gère là, les appels de projets au FDT. Là, je vais essayer de ne pas vous perdre, là, parce qu'on dit des numéros de volets, puis des années, puis tout ça, mais je vais essayer de faire ça clair. Donc, volet 4 2019. On invite, il y avait déjà 11 municipalités qui avaient répondu à l'appel, et on invite les 11 municipalités à remettre le montant prévu aux organismes ciblés pour les soutenir dans le contexte de la pandémie ou, c'est au choix de la municipalité, revoir leur choix d'organisme si nécessaire étant donné le contexte. Je vous mets une mise en situation, puis je nomme ceux qui ont été nommés là, dans notre rencontre. Par exemple, un organisme qui aurait une permanence ou des infrastructures à mettre en place ou des éléments qu'il souhaite améliorer étant donné qu'il ne peut pas tenir son événement, ça serait possible de le soutenir dans son financement. Mais si vous aviez choisi un événement qui a très peu de dépenses, par exemple, un événement qui n'a pas de permanence, qui n'a pas d'infrastructure ou quoi que ce soit, on pense au festival qui est tout nouveau, peut-être que vous pourriez aussi revoir le choix d'organisation que vous voulez soutenir. L'autre exemple qui avait été donné, c'est les stock-cars du côté de Béarn. Même s'ils n'ont pas lieu, il y a des améliorations qui vont être faites aux infrastructures pour accueillir l'année prochaine. Donc, le soutien financier qui avait été promis pourrait quand même se tenir parce qu'il va être utilisé. Dans le fond, toujours pour le volet 2019, on informe les 9 municipalités qui n'ont pas manifesté leur intérêt à soutenir un organisme ou un événement que le montant est toujours disponible pour le faire ou qui pourraient décider de faire une action municipale liée au contexte de la pandémie. Donc, le montant de 2 500 $ serait possible pour soutenir une action municipale dans le contexte actuel. Donc, ça, c'est ce qui viendrait expliquer le volet 2019. On se transporte dans notre politique actuelle, la politique 2020. Ce qu'on vous propose, c'est de rendre disponible l'ensemble de l'enveloppe 2020 aux municipalités pour des actions municipales qui sont liées à la pandémie. Et ça, ce serait rétroactif à la date du début du fléau, soit au 10 mars. Ce que ça veut dire, c'est qu'une municipalité qui aurait mis en place des actions ou qui aurait dû faire des dépenses spécifiques au contexte de la pandémie pourrait avoir le soutien de 2 500 $ prévu à ce volet-là pour le faire. Mais c'est sûr qu'il faut que ce soit des dépenses qui ne sont pas réclamées à un autre programme qui est déjà offert aux municipalités dans le cadre de la pandémie. Et pour ces deux volets-là, bien, dans le fond, c'est que la MRC va décaisser les montants alloués sur présentation de pièces justificatives, que ce soit de la part de la municipalité ou de l'organisme que vous avez choisi de soutenir. Donc, voilà, vous n'avez peut-être pas devant vous le portrait là, des organismes qui avaient déjà, des 11 municipalités qui avaient déjà choisi l'événement ou l'organisation qu'ils souhaitaient soutenir. Moi, ce que je ferai, c'est que si ça fonctionne, je communiquerai avec les municipalités pour leur expliquer le fonctionnement privilégié.
Est-ce que vous avez des questions pour Véronique sur cet aspect-là des choses? André?
Il y a trop de questions.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nommez-vous parce que là, c'est, je ne vois pas tout le monde.
Moi, j'ai une question, Isabelle.
Vas-y, Isabelle.
Moi, j'ai une question, Isabelle.
Vas-y, Isabelle. Vas-y.
Je voulais juste m'assurer qu'on va avoir un écrit de ça, un courriel à ce sujet-là, Véronique.
Oui, dans le fond, tu sais, moi, ce que je vous ai mentionné ce soir, c'est ça se retrouve dans la résolution qui vous est proposée.
Je veux juste vérifier avec Véronique, est-ce qu'on va avoir des écrits de la proposition? Oui.
Oui, dans le fond, moi, ce que je vous ai relaté, c'est la résolution. Donc, il y a déjà un écrit qui est au niveau de la résolution, mais dès demain ou en début de semaine prochaine, moi, je vais communiquer avec les municipalités pour vraiment bien expliquer le fonctionnement, puis selon la situation de chacun aussi, préciser ce qui est possible pour quel volet.
Isabelle, est-ce que tu as entendu la réponse?
Parfait, merci. Okay. Oui, oui, merci beaucoup. C'est bon.
D'autres questions? Sinon, je recevrai une proposition pour adopter la résolution. Est-ce que j'ai un proposeur?
Carmen.
Yves, Ouellette et?
Carmen.
Carmen Côté, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Véronique. Puis, je me permets de souligner la qualité des projets qu'on reçoit, c'est vraiment c'est bien ficelé, bien monté, c'est inspirant les projets qu'on reçoit là. Je voyais pas les autres projets avant peut-être, mais ceux-là depuis que je suis ici, je trouve que vous faites preuve de beaucoup de c'est très professionnel. Point 9, je vais laisser la parole à Daniel Dufault, adhésion de la municipalité de Laverne-la-Chère-en-Vivier à la compétence de la MRC en matière de présentation sur les animaux de compagnie. Daniel.
Oui, c'est que la MRC a reçu une résolution de la municipalité de Laverne-la-Chère-en-Vivier pour adhérer à la compétence de la MRC concernant le règlement sur les chiens et les chats. et pour l'entente avec le refuge, aux mêmes conditions que les 8 ou 9 autres municipalités qui sont déjà dans l'entente. Alors, si vous êtes d'accord, il s'agit d'accepter cette adhésion-là.
C'est bon.
C'est bon, tu le proposes?
Oui.
Est-ce que c'est appuyé?
Ah oh oui, moi, je vais le faire. Oui, vous le savez, hein? En ce qui concerne cette loi-là, là, je suis possiblement réfractaire.
Oh, on l'a vu, tu avais tout un élan.
Hein? C'est bon.
J'ai déjà été plus voulant.
Point 10, merci beaucoup. Point 10, je demande la portée collective pour des îlots déstructurés dans les municipalités de Moffett, Notre-Dame-du-Nord, Lumigny et Fabre. Daniel, toujours.
En fait, ça concerne 4 municipalités qui ont été consultées et pour lesquelles la MRC a reçu une résolution pour présenter une demande à la Commission de protection du territoire agricole. On l'appelle demande à portée collective parce que c'est une demande que la municipalité peut faire au nom de plusieurs citoyens, plusieurs propriétaires. Alors, l'étape de ce soir, c'est de demander à la Commission de protection du territoire agricole qu'elle ouvre un dossier et puis d'entamer des négociations avec l'UPA, la Commission de protection du territoire agricole, bien sûr, les 4 municipalités pour cette demande-là.
Avez-vous des questions pour Daniel?
Oui, oui.
André, vas-y.
Est-ce que c'est pour du terrain agricole ou c'est pour de la forêt? Ou c'est des bords de lac? C'est quoi?
C'est les principales, l'essentiel des demandes des 4 municipalités, c'est des bordures de lac. C'est des municipalités, pour la plupart, pour lesquelles les lacs ne sont pas en zone blanche, comme chez vous, par exemple, le lac d'Argent ou le lac Honora, qui sont en zone blanche, mais qui, eux autres, doivent passer par la Commission de protection du territoire agricole pour faire autoriser la construction de chalets ou de maisons en bordure de lac.
Merci beaucoup, Daniel.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, c'est pas de quoi qu'on a déjà fait ça par le passé, ces municipalités-là l'ont déjà demandé, ces choses-là?
Oui, c'est ça. C'était la phase 1 qui a eu lieu en 2011, et puis là, c'est la phase 2 pour un peu compléter ou corriger la décision qui avait été rendue en 2011, puis qui cause certains irritants pour les 4 municipalités.
Mais est-ce qu'en 2011, on avait eu des résultats positifs ou ça avait été tout négatif d'un bout à l'autre?
Non, la plupart des secteurs avaient été autorisés en 2011.
OK. Merci.
Lynn H., tu avais une question? Ton micro, Lynn.
Non, c'était pour proposer tantôt, mais c'est correct.
OK, bien là, il faut proposer encore. Fait qu'est-ce que tu proposes maintenant?
Ah oui, je peux la proposer, oui.
OK. Est-ce que d'autres questions? Sinon, c'est proposé par Lynn. Est-ce que c'est appuyé? Yves, merci.